Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, nous fêtons donc aujourd'hui la solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous pouvons légitimement nous demander ce que une jeune fille décédée à l'âge de 24 ans, qui est restée 9 ans enfermée entre les quatre murs d'un Carmel, peut bien nous apporter dans notre vie. Oui, dans notre vie très compliquée, dans notre vie trépidante, dans notre vie de personnes stressées du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Sainte Thérèse peut bien avoir à nous apporter? Eh bien, cette jeune fille, cette jeune religieuse, elle est particulièrement remarquable parce qu'elle va montrer aux hommes de son siècle et à nous aussi, qui ne sommes que la suite de ce 19e siècle, qu'il est beaucoup plus simple qu'on s'imagine de devenir des saints. Et elle va proposer ce que l'on appelle la petite voie de l'enfance spirituelle. Mais il faut bien le dire, il peut y avoir beaucoup de contresens à ce sujet. On a présenté d'ailleurs Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec des tas de fleurs dans les mains, répandant ses fleurs sur la terre, une Sainte Thérèse un peu mièvre, très sentimentale. C'est vrai que Sainte Thérèse était sentimentale. Ceci étant, sa recherche de la perfection, elle est authentique. Et nous nous tromperions si nous imaginions avoir avec Sainte Thérèse une espèce de méthode au rabais pour arriver à la perfection. Lorsque Sainte Thérèse entre au Carmel, elle a 15 ans. Elle est obligée de demander une dispense. Elle va aller jusqu'à la demander au pape Léon XIII. Donc nous voyons chez cette jeune adolescente une détermination assez incroyable. Elle fait un pèlerinage à Rome, et là, lors de l'audience avec le Saint-Père, eh bien, elle se plante là pour demander cette dispense, qu'elle n'obtient pas, bien entendu, qu'elle obtiendra ultérieurement, mais par l'évêque du lieu. Et donc, elle va rentrer au Carmel, elle va de fait rentrer au Carmel à 15 ans. Là, elle rejoint trois de ses sœurs. Sainte Thérèse appartient à une famille de filles. Il y avait 5 filles. Les 5 vont être religieuses. Enfin, de celles qui ont survécu. Et l'une va rentrer à la Visitation, dans le monastère qui est à côté, pas très loin de Lisieux. Et les 4 autres, donc, vont se retrouver au Carmel. Sainte Thérèse, c'est la dernière de la famille. Et c'est celle qui est chouchoutée, qui est câliné, qui est l'objet de tous les soins de la part de ses grandes sœurs. Mais il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. Lorsqu'elle rentre au Carmel, elle n'y rentre pas pour ses sœurs. Elle ne rentre pas pour retrouver un petit cocon familial qui va l'entourer, la chouchouter et lui permettre de passer une vie tranquille à l'intérieur de son petit couvent. Elle le dit elle-même. Elle rentre au Carmel pour devenir l'épouse de Jésus-Christ. J'ai dit que Sainte Thérèse était une sentimentale, mais elle avait beaucoup de caractère. Ses sœurs racontent, enfin, sa mère raconte, qu'elle se roulait par terre quand quelque chose ne lui convenait pas quand elle était enfant, et qu'elle se mettait dans des colères noires. Donc nous voyons derrière cette petite religieuse, en réalité, un tempérament de feu. Elle rentre donc à 15 ans, avec une maturité qu'il faut dire exceptionnelle. Et elle va essayer de réfléchir à la manière dont elle va pouvoir atteindre à la perfection. Comment elle va obtenir ce qu'elle est venue chercher, à savoir la sainteté. Et la sainteté en étant épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que les difficultés commencent. Parce que Sainte Thérèse se rend compte que cet époux, il est parfait. Et que elle ne cesse de tomber. Alors qu'on ne s'imagine pas des chutes gravissimes. L'un de ses confesseurs écrit à Sainte Thérèse qui a passé plusieurs années dans le scrupule. Il lui écrit en lui disant « Je vous assure que vous n'avez jamais commis un seul péché mortel depuis votre l'âge de raison, depuis que vous avez la raison. » Et pourtant, Sainte Thérèse se désespère parce qu'elle constate qu'elle est impatiente vis-à-vis de certaines religieuses, qu'elle n'en supporte pas d'autres, ou bien qu'elle recherche des consolations précisément auprès de ses sœurs qui sont toujours prêtes à lui accorder toutes les qualités qu'elle désirerait. Et donc, Sainte Thérèse va réfléchir. Elle va étudier l'Écriture avec les quelques Bibles qui se trouvaient dans le couvent pour trouver un moyen de se sanctifier, mais tout en se considérant comme vraiment incapable d'y arriver. Et c'est là que l'on peut dire se situe le génie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que, au lieu de se dire « comment je vais faire pour me changer ?»« Comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de tous ces défauts qui sont les miens ?» Eh bien, elle va changer de raisonnement, elle va se dire « Seigneur, vous me voulez comme épouse. Et je suis d'une imperfection invraisemblable. Alors, moi-même, je ne peux rien faire pour me perfectionner, pour aller de l'avant. Eh bien, c'est à vous de me changer. » Sainte Thérèse se présente donc devant notre Seigneur Jésus-Christ comme une mendiante, comme quelqu'un qui, en fait, est tout petit, qui est très fragile, qui est d'une faiblesse qui dépasse toute imagination. Et c'est la raison pour laquelle elle s'adresse à son Seigneur en lui disant « Bien, Seigneur, c'est vous qui allez être ma force. C'est vous qui allez me faire avancer. C'est vous qui allez être mon moteur. » Et on peut dire que là, Sainte Thérèse fait une découverte qui nous intéresse tous. Parce que nous aussi, nous devons constater que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles. C'est, je dirais, la première constatation que nous devons faire dans notre vie spirituelle. C'est de nous regarder devant Dieu et de savoir dire, mais en toute vérité, vraiment convaincu de ce que nous disons, à savoir, Seigneur, sans vous, je ne peux rien faire. Et ce n'est que assimiler ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait déjà à ses disciples. « Sans moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur n'a pas dit « Oh, vous pourrez un petit peu, pas beaucoup, mais vous pourrez un petit peu. » Non, le Seigneur a dit « Rien. Vous ne pouvez rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, Sainte Thérèse comprend qu'en effet, toute seule, elle ne peut pas arriver à la perfection. Alors, elle va demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir à son aide, d'être le vrai moteur de sa vie spirituelle. Et de ce point de vue-là, elle a bien raison. J'étais en Balagne, donc hier, pour une récollection, si on peut dire, un séminaire pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et le thème choisi pour la journée, c'était la vertu chrétienne. Donc j'ai fait ainsi que le père Louis-Marie de Corbard, nous avons donné 3 entretiens sur les vertus. Et j'ai donc eu à expliquer ce que c'était qu'une vertu chrétienne. Une vertu, nous savons tous ce que c'est une inclination à faire le bien. Mais la vertu chrétienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vertu qui nous permet, en faisant le bien, d'obtenir aussi notre fin dernière, la vie éternelle. Et comment pouvons-nous obtenir la vie éternelle? Eh bien, parce que Dieu nous fait le don de sa propre vie. Si Dieu ne nous faisait pas le don de sa propre vie, nous ne pourrions pas atteindre la vie éternelle. Parce que depuis le péché, péché originel, après nos propres péchés, eh bien, nous sommes dans l'incapacité d'atteindre à notre perfection dernière, c'est-à-dire la béatitude éternelle. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'un don surnaturel, le don de la vie même de Dieu, qui dépasse les forces de notre propre nature, qui est surnaturelle, et que nous parlons de vertu surnaturelle ou de vertu chrétienne. La vertu chrétienne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette inclination à faire le bien dont le moteur, ce n'est pas tant nous qui faisons le bien, mais dont le moteur, c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Vous voyez la différence ? Eh bien, c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous apprend dans sa petite voix de l'enfant spirituel. Et pourquoi est-ce qu'on appelle cette petite voix l'enfance spirituelle ? Eh bien, pas parce que pour obtenir ce résultat, il est indispensable que nous redevenions comme de petits enfants. Ce matin, à la messe, il y avait quelques petits qui passaient d'un banc à un autre. Comme je disais aux parents, je disais, voyez, ces petits donc, qui sont là, ils vont d'un banc à l'autre, mais s'il y en a un qui se cogne, qui se fait mal sur un des bancs, il va ensuite venir pleurant sur les genoux de sa maman pour réclamer de la une consolation. Et sa maman va le prendre, va le mettre sur ses genoux, va le consoler, va le cajoler pour faire disparaître son chagrin. Remarquez le texte de la messe d'aujourd'hui, la lecture d'Isaïe. Dieu dit « Je procéderai comme une mère, je vous prendrai sur mes genoux et je vous consolerai et vous serez heureux. Votre cœur sera vraiment dans la joie. » C'est ce que nous dit Dieu lui-même. Et Sainte Thérèse a pris ces mots à la lettre. Elle a dit, puisqu'il en est ainsi, bien sûr, je suis misérable, je pêche, je tombe, je n'arrive pas à éviter ces imperfections vis-à-vis de mes propres sœurs. Eh bien, malgré tout, je vais aller avec toute la confiance qui est la mienne, je vais aller vers notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il m'aide, pour qu'il me console, pour qu'il me prenne sur ses genoux. Et il faut savoir que Sainte Thérèse était très généreuse. Et Dieu lui a fait subir une épreuve terrible. Jusque 18 mois avant sa mort, pour elle, toutes les vérités de la foi étaient évidentes. Elle vivait dans une grande lumière. Elle avançait, lui semblait-il, à pas de géant sur ce chemin qu'elle avait découvert. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a été les ténèbres les plus sombres. Elle ne comprenait plus la foi. Elle s'est mise à douter. Non pas qu'elle doutait volontairement, mais elle était assaillie par des doutes. Elle n'avait aucun goût à cette vie qu'elle menait, sauf à certains moments où il y avait comme une petite lueur. Et pendant 18 mois, elle va vivre ainsi, dans une crise de la foi. Mais elle va rester fidèle à Dieu. Parce que, comme elle le dit elle-même, elle dit « J'ai l'impression de ne pas croire, mais je veux croire. » Elle avait l'impression que lorsqu'elle disait « je crois », presque elle mentait, mais elle savait que tout ce à quoi elle était attachée était vraiment la réalité. Et elle est décédée ainsi. Elle n'a commencé à voir la lumière que lorsque elle est vraiment décédée au Carmel de Lisieux. Et elle a offert cette souffrance pendant 18 mois, elle a offert cette souffrance pour les pécheurs, et en particulier pour les prêtres, puisque c'est la mission du Carmel. Dieu l'a mené jusque-là, pourquoi ? Pour nous montrer que, finalement, Sainte Thérèse, sous ses dehors, encore une fois, très sentimentaux, en réalité, elle cachait un cœur qui était plein de générosité pour Dieu et qui, finalement, a offert sa vie, ou plus exactement, sa mort, à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut du monde. Et je crois que c'est en réalité le chemin que tout chrétien devrait arriver à accomplir dans sa vie. Mourir, il faudra toujours que nous mourions. Souffrir aussi, d'ailleurs. Nous souffrons ici-bas. Et nous avons deux choix. Ou de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de mériter pour le ciel, et surtout de nous unir davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, finalement, de mourir avec lui. Et je crois que c'est une très bonne leçon pour nous. Il faut que nous apprenions, en effet, à mourir avec Jésus-Christ, mourant sur la croix. Quitte à mourir, autant mourir avec lui. Et c'est en cela que Sainte Thérèse est un vrai remède au monde actuel et à toute sa philosophie athée, puis sa philosophie qui, surtout, est opposée à Dieu. Elle nous donne là le secret de la radicalité de la vie chrétienne. Eh bien, nous demanderons aujourd'hui à Sainte Thérèse de nous accompagner, de nous montrer ce chemin qui n'est finalement pas si simple que ça à obtenir, ce chemin qui doit nous mener jusqu'au don total de nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.